La porte-parole de la Maison-Blanche, Raphaël Jacob, donc, qui annonce que les frontières vont rester fermées pour ceux qui veulent aller aux États-Unis.
Oui, et ceci n'est pas une chronique art et spectacle, je tiens aussi à le préciser, Marie-Claude. Écoute, la Maison-Blanche vient de faire essentiellement le même coup aujourd'hui à l'Europe qu'elle a fait au Canada la semaine passée. En fait, c'est encore pire parce que, ça, il faut le comprendre, les pays de l'Union européenne, la vingtaine de pays, ont déjà, eux, ouvert leurs frontières aux visiteurs américains le mois dernier. Oui. Le Canada, ce n'est pas encore fait. Ça va être fait le mois prochain, mais ce n'est pas encore fait. Les Européens, ça fait des semaines que c'est comme ça, et tout ce qu'ils attendaient, évidemment, c'était une annonce réciproque. Puis là, aujourd'hui, sans attente, bam, la Maison-Blanche dit non. On prolonge, aucune date de réouverture, aucune espèce de plan de réouverture, aucun barème, aucun critère de réouverture. Puis là, la Maison-Blanche de M. Biden, elle est isolée sur toutes ces questions-là frontalières-là parce que, écoute, tu te rappelles la semaine dernière, je te disais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans le fait que le gouvernement canadien n'était même pas au fait de ce qu'allait faire le gouvernement américain. Mais là, ce qu'on voit depuis ce temps-là, Marc-Claude, c'est que même à l'intérieur des États-Unis, tu as plusieurs acteurs de premier plan qui n'ont aucune idée des directions que prennent ou que vont prendre ou que va prendre la Maison-Blanche. Je te donne un exemple. On se parle de la frontière canadienne, là. La gouverneure du Maine, on n'a pas besoin de le dire, là, le Maine, c'est un État frontalier très important pour le Canada, surtout pour le Québec.
Pour le Québec, oui.
Pour le Québec. C'est une démocrate. Elle est pour la réouverture. Elle s'attendait à une réouverture la semaine dernière, puis publiquement, elle est sortie depuis ce temps-là en disant, écoute, je ne l'ai pas vu venir. Et là, tu as eu tous les élus de l'État, donc les élus du Maine au Congrès. Ça inclut deux démocrates, une républicaine, un indépendant, donc qui est ni républicain ou démocrate techniquement, là, qui ont tous signé une lettre conjointe qui exhorte la Maison-Blanche de Joe Biden à reconsidérer son approche frontalière, sa position. Puis c'est quoi cette position-là? Okay? En date d'aujourd'hui, là, Marc-Claude, je te fais un petit bilan. T'es Canadien, tu veux entrer aux États-Unis par la voie terrestre? C'est non. T'es Européen, tu veux rentrer par la voie aérienne? C'est non. T'es Canadien, tu veux rentrer par la voie aérienne? C'est oui. T'es, et là je te jure, c'est un exemple réel que je te donne là. T'es Malaisien, tu viens de la Malaisie en Asie, tu veux entrer par la voie aérienne? C'est oui. Tant que t'es pas aussi allé en Europe avant, parce que là c'est non. C'est parce que ça devient impossible à suivre.
Et tout ça c'est à cause de COVID ou à cause, est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Ben écoute, je vais te revenir là-dessus demain pour qu'on puisse vraiment prendre ensemble le temps de se parler de ce qui se passe à l'autre frontière dont personne ne parle vraiment présentement, c'est-à-dire celle avec le Mexique.
Ah ben c'est clair, là, c'est clair, clair, oui. Oui. Donc demain, excuse-moi, je pense, est-ce que la ligne est coupée? Je pense qu'on a perdu Raphaël, on va le rappeler. Pendant ce temps-là, je vais vous dire que le prochain sujet dont il veut nous parler, c'est assez intéressant. Le fils du président des États-Unis, Hunter Biden, est peintre à 16 heures. Et là, il va y avoir une exposition et les œuvres d'art se vendent des prix de fou pour quelqu'un qui fait une première exposition. On essaie de comprendre avec Raphaël pourquoi ces prix-là, etc. Donc, Raphaël, on me dit que tu es revenu.
Je suis revenu, mais ta voix téléphonique cette fois-ci.
Bon, je ne sais pas si tu as entendu ce que je disais, là, qu'on allait parler de Hunter Biden et l'étoile. Écoute, c'est sa première exposition, je crois.
Oui, et c'est l'exposition d'un peintre amateur. Tu sais, je m'excuse, mais il faut le dire clairement. Là,
c'est
un type qui n'a aucune expérience, aucune formation reconnue dans le domaine de la peinture, de l'art de façon plus large. Mais là, il s'adonne non seulement à commencer à exposer ses œuvres, mais à essayer de les vendre, et là, je n'exagère pas, là, pour des sommes qui peuvent aller jusqu'à 500 000 $ US.
Mais okay? qui a établi ces prix-là? C'est lui-même ou c'est son agent? Ou c'est...
Il fait affaire avec une galerie d'art de ce qu'on en comprend à New York. Donc, c'est sûr que c'est pas lui unilatéralement. Mais le problème, c'est qu'au final, Marie-Claude, que ce soit lui ou non qui fixe les prix, à partir du moment où tu as un ou plusieurs riches acheteurs qui sont prêts et qui à débourser ce genre de somme-là et qui le font. Et qui, en plus de ça, rencontre Hunter Biden, parce que c'est ça, encore une fois, de ce qu'on en comprend, qui est en train de se produire. Il est en train de rencontrer des acheteurs potentiels. Imagine-tu, juste au niveau de la perception, ce que ça envoie comme message, c'est que tu peux peut-être t'acheter de l'accès au fils du président des États-Unis si tu as assez d'argent et tu es assez prêt pour le débourser, pour acheter ses toiles. Tu sais, fait que c'est... C'est très, très particulier.
Bonjour, le conflit d'intérêts.
Ben, bonjour, le conflit d'intérêts, surtout dans le cas d'Hunter Biden, personnellement, parce que, tu te rappelleras, on en avait tellement parlé pendant la campagne de l'an passé, la campagne présidentielle entre Biden et Donald Trump, parce qu'Hunter Biden, qui était non seulement le fils d'un candidat, mais le fils d'un ancien vice-président des États-Unis, on avait appris pendant la campagne que lorsque son père était vice-président, justement, et qu'il s'occupait beaucoup de politique étrangère au sein de l'administration Obama, mais le fils Biden siégeait au sein d'un CA, d'un conseil d'administration, d'une firme énergétique en Ukraine, alors qu'il avait aucune expérience non plus dans le domaine, et il faisait à peu près 50 000 $, pas par année, par mois.
C'est incroyable.
Par mois. Fait que, tu sais, c'est épouvantable, la perception. Et au final, il faut être clair, deux choses. Premièrement, c'est très, très possible qu'il n'y ait rien d'illégal qui soit fait et qu'il n'y ait rien même d'immoral qui soit fait. C'est possible à la limite. Et il faut aussi comprendre que lorsqu'on parle d'Hunter Biden, le type, clairement, a des enjeux de nature personnelle, consommation de drogue, tout ça, par rapport auquel je pense que la moindre des choses, la chose la moindrement décente, c'est de non seulement ne pas l'attaquer, mais l'encourager. Tu sais, il y a un aspect humain à cette histoire-là. Ça, c'est une chose, mais en même temps, en parallèle, au niveau de la perception publique, des accusations de népotisme, tu sais, on peut quand même pas fermer les yeux et nier qu'il y a tout au moins des apparences très claires de conflit d'intérêts.
Quelle joie pour les républicains. Bon,
oui,
dernier sujet, dans la foulée des violences là, dans les rues, la sécurité publique devient une grande priorité pour les électeurs. Ça brasse encore à Chicago, là.
Écoute, le lundi, puis je vais pas faire de mauvaise blague avec ça, Marc-Claude, parce que c'est pas drôle, là, mais le lundi, on annonce les chiffres COVID au Québec là, pour la fin de semaine. C'est rendu, je pense que je vais commencer à donner les chiffres de fusillade à Chicago pour la fin de semaine quand on va se parler lundi. Parce que là, c'est une fin de semaine après l'autre. Là. Ça arrête jamais. Là, la fin de semaine qui vient de se terminer, dans une ville, toujours la même ville, Chicago, 73 personnes atteintes par balle, 11 personnes tuées par balle, dont un mineur, un ado de 17 ans, tiré dans la poitrine dans une cour résidentielle, OK? Puis, je t'ajoute ceci, très souvent, on a la perception, je pense, à juste titre, surtout lorsqu'il est question de grosses villes américaines comme ça, il y a de la violence là avec les ghettos, tout ça, que c'est limité à un quartier ou des quartiers. Puis à Chicago, il y a souvent longtemps été question de ce qu'on appelle le South Side, le quartier sud, qui est beaucoup plus dur, là, disons, que le reste de la ville. Là, on n'est plus là-dedans. Là. C'est à la grandeur de la ville. Chicago est divisé en 22 districts, 22 quartiers, si on veut, par la police. Là. En fin de semaine, Marc-Claude, tu as eu au moins une personne atteinte par balle dans 18 des 22 quartiers. Pense-y, là, si c'était ici. Là.
Ça, non, mais c'est impossible. Je pense que les gens doivent commencer à avoir envie de s'enfermer chez eux, dans la maison, même pas sortir, même pas aller à l'épicerie. Là. Ça commence à devenir épeurant de juste vivre. Alors, je pourrais comprendre que des gens de Chicago décident de s'en aller ailleurs. Mais en même temps, quand ta vie est là, quand ton travail est là. Enfin, écoute, Raphaël, on va se laisser là-dessus pour ce soir.
C'est bon. À
et
demain.
Puis, à demain, en espérant que la ligne sera bonne. Pour puis sinon, ben, écoute, éventuellement, j'imagine que tu vas venir en studio aussi. On le souhaite de tout cœur. Mais là, pour l'instant, on n'est pas là.
Peut-être avant la réouverture de la frontière américaine.
Ah oui, ça, je pense que oui. On va espérer. Merci beaucoup. Bye-bye, Raphaël. On va s'arrêter le temps d'une pause et Martin Lemay viendra nous parler du menu de Amateurs de sport qu'il anime cette semaine.